Et costaud. Et là, nous arrivons donc dans la deuxième partie du livre de Yoël. Alors, effectivement, on va reprendre la toute fin du chapitre 2. Pourquoi? Bien parce que, simplement, je voudrais qu'on se rappelle bien pour remettre le contexte. Car le chapitre 3 fait directement la suite, contextuellement parlant, du deuxième chapitre, de la fin du deuxième chapitre. On se rappelle, je redonne comme ça vite fait. Sefer Yoël, c'est que quatre chapitres, c'est pas énorme, mais il y a deux grands sujets qui en sont trois. Yoël va nous parler d'abord dans le premier chapitre et demi, c'est-à-dire le premier chapitre et la moitié du deuxième, de Makat Arbé, d'une invasion de sauterelles terribles. On a expliqué ce que ça voulait dire la semaine dernière. Et pour terminer ce deuxième chapitre, eh bien, Yoël nous dit, Aval tiraga, calme-toi. Finalement, Akadosh Baruch Hu est avec toi quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que les derniers versets du chapitre parlent du contact entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Vayekane, je reprends très rapidement hein, le deuxième chapitre, verset 18, Yutret. Vayekane Hashem la'artzo vayachmol al amo. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a envie de rattacher le peuple d'Israël à sa terre. Et c'est une chemla. Il a donné donc la mechila par rapport aux avérotes qu'a pu faire le peuple juif. Vayan Hashem, vayomer le'amo, ineni sholeach lachem et ha'dagan ve'atirosh ve'itzar, usvatem oto velo eten etchem ot cherpa bagoyim. Et là, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Qu'est-ce que Dieu nous promet de nous redonner par l'intermédiaire de Yoël Hanavi? L'abondance. L'abondance. L'abondance matérielle. C'est de cela qu'on parle. Alors, évidemment que quand on le replace dans le contexte, juste après l'invasion et l'attaque des sauterelles, qui ont très certainement mangé tout ce qu'il y avait à manger, bah on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il promet l'abondance. Mais ça va bien au-delà de simplement le contexte des sauterelles. Il semblerait que pour atteindre la névoa de Acharit HaYamim qu'on va voir dans le chapitre 3, eh bien, on doit passer d'abord par un retour à l'abondance. Et on nous dit ici, Velo eten etrem od cherpa bagoyim. Et je ne vous donnerai plus, je ne vous mettrai plus en mode cherpa, c'est-à-dire honte, au niveau des goyim. Il semblerait donc que si Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne l'abondance, et comme ça, vous n'aurez plus honte par rapport aux goyim, eh bien, ça veut dire que quelle est la grande honte du peuple juif? C'est lorsqu'il est misken. Lorsque Am Israël, il est misken, eh bien, non seulement il a honte envers les goyim, mais en plus de ça, comment tu veux qu'on l'écoute? Qui igdil la asot. Et donc on nous dit Al tiri Adama Gilius machi qui igdil Hashem la asot. On avait expliqué igdil Hashem la asot imele le retour Shivat Zion, tout ça ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc je saute directement hop là, attends voir, hop là voilà. Je saute directement au verset 4 guimel. ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורה לכם גשם ומורה ומלקוש בראשון. Donc encore une fois, הקדוש ברוך הוא nous parle de cette abondance qu'il va nous donner. ואכלתם, dans le verset כ"ו, je saute hein, parce qu'on a déjà vu la semaine dernière. ואכלתם אכול ושבוע והיללתם את שם השם אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא. Velo Yevoshu Ami Leolam. Cette abondance nous permettra de ne plus avoir honte. Vidatem ki bekerev Israël Ami, Anitra, Veani Hashem Elohechem, Vein Od, Velo Yevoshu Ami Leolam. Voilà, on s'était arrêté là, on a fait notre petit récapitulatif. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui va être en jeu maintenant dans le troisième chapitre. Dans le troisième chapitre, on va le voir tout de suite, va être en jeu le retour de la prophétie. Alors, quand je parle de retour de la prophétie, ça paraît un petit peu contradictoire. On est en train de parler de Yoël à Navi. Donc, Yoël, il est prophète. Nachon. Mais là, dans le troisième chapitre, Yoël va nous parler de Acharit Hayamim. Et entre son époque et la réalisation du troisième chapitre, il y a toute une période de 2000, presque 300 ans, où il n'y aura plus de prophétie. Et donc ici, Yoël nous parle du retour de la prophétie. Et là, il faut se poser la question, les amis. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être prophète? Quelles sont les caractéristiques que l'homme a besoin s'il veut devenir prophète? Eh bien, nous dit le Talmud, « Ein anevoa shora, ela al chacham gibor ve'ashir. » Pour être prophète, il faut être chacham, gibor et ashir, sage, puissant et riche. Mais je ne rentre pas dans tous les détails de qu'est-ce que c'est qu'on echad ve'echad. Ça, c'est vrai au niveau individuel. Le prophète ne peut pas avoir, ne peut pas être en rouge à la banque. C'est pas possible. Sinon, il n'est pas prophète. Un prophète ne peut pas être quelqu'un qui est fébrile et que s'il y a un coup de vent, il s'envole. C'est pas possible. Et le prophète ne peut pas être quelqu'un qui ne sait pas résoudre une équation à deux inconnus. Mais ça, c'est au niveau individuel. Qu'en est-il de Klal Israël? Qu'en est-il d'une réalité où la prophétie est l'apanage du peuple juif tout entier? Car c'est bel et bien de cela dont on parle. Il va se voir ici, regardez bien le texte, parler d'une prophétie pour tout le monde. Chapitre 3, verset Aleph. Vaya charechen, eshpoch et ruchi al kol basar. Ça ne sera plus une personne qui sera prophète, c'est tout le monde. Ah bon? Donc ça veut dire que ça devient Am Israël qui doit être chacham, gibor, ve'achir. Am Israël en tant qu'entité complète, nationale. Eh bien, je tiens à vous dire, les amis, que nous sommes en train de réaliser, enfin, du moins, de préparer le terrain pour réaliser la prophétie de Yoël. Aré Alpaim Shnot Galut, pendant 2000 ans d'exil, Am Israël a montré qu'il était Chacham. Il a montré que ce soit dans le nombre de rabbanim extraordinaires qu'on a produit, mais que ce soit également au niveau international, on a une renommée de gens intelligents. Pendant les guerres d'Israël, depuis la création de l'État d'Israël, on a montré qu'on était gibor. On a battu tous nos ennemis. On a montré qu'on était redevenu malé gevura. Mais je regardais d'ailleurs tout à l'heure, pour un travail que je dois faire, une conférence que je dois faire sur les différents manigim, les différents dirigeants du peuple juif. Je regardais une vidéo qui parlait de Menachem Begin, qui était sans conteste un grand dirigeant. Mais à l'époque de Begin, l'économie israélienne était terrible. Le peuple mourait de faim. C'était pas la folie. Et je te parle pas des années 20. Hein. Je te parle du début des années 80. Aujourd'hui, Israël est le pays du start-up. Le pays de la high-tech. Nous sommes un pays qui est excessivement riche en termes macro. Je ne dis pas que chaque personne au sein d'Israël est riche, c'est pas du tout, c'est pas le cas. Mais au niveau de la nation, l'économie israélienne se porte bien. Nous sommes parmi les économies les plus fortes du monde. Nous avons montré depuis ces dernières années, ces 10, 20 dernières années, depuis l'an 2000, que Am Israël, maintenant, il est Ashir. En d'autres termes, on a les trois dimensions qui permettent à la Nevoa. Chacham, Gibor, Ve'ashir. Alors, pourquoi il n'y a pas de Nevoa encore? Eh bien, tout simplement parce que pour l'instant, on a les trois, mais ils ne sont pas réunis. Les gens qui sont asukim ba chokhma, en général, c'est pas les gens qui sont asukim ba high-tech. Et les gens qui sont dans la high-tech, c'est pas ceux qui sont sur le champ de bataille. Donc, il ne suffira plus maintenant que de réunir les trois. Et à ce moment-là, on est bon. On est bon. Et regardez ce que Yoël nous prédit. Ve'aya acharechen, eshpoch et ruchi al kol basar. Tout le monde sera prophète. Mais est-ce que tout le monde sera prophète pareil? Eh bien non. Mais avant de dire quelle est la différence entre chacun, est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ça? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ça? Une prophétie qui parle où tout le monde doit être prophète. Eh bien oui. Eh oui, dans la Torah, bien sûr. Datan ve Aviram. Pourquoi?
C'est pas là qu'on dit qu'il faut qu'il soit tout le monde soit prophète.
Datan ve Aviram, ils se sont opposés à Moshe à plein de moments, mais ils sont morts dans l'épisode de Korach.
Ah non, alors c'est pas là, c'est le couple l'absolu. Pardon.
Je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas Datan ve Aviram, c'est exactement. Eldad ou Meidad. Voilà, exactement. C'est un parasha de Be'alotecha. Eldad ou Meidad. Et lorsque Eldad ou Meidad mitnabim b'machane, et à ce moment-là, Yoshua, non seulement Yoshua, mais en plus Gershon, le fils de Moshe, viennent dire Anashim mitnabim b'machane. Moshe répond à Mekane Atali. Ou miyiten kol amashem neviim. C'est-à-dire que Moshe comprend que viendra un temps où tout amashem sera prophète. Moshe fait référence à Yoël Hanavi. Yoël nous dit que lorsque tout le monde va prophétiser, les niveaux ne sont pas les mêmes. Je reprends le verset. Vayachaechen eshpoch et ruchi al kol basar venibou Benechem uvnotechem. Ziknechem chalomot yechalemu. Ubachurechem chesionot yiru. Il y a dans la prophétie plusieurs degrés de prophétie. Le chalom, nous dira le Rambam, est le plus bas degré de prophétie, le rêve. C'est le plus bas dimension, le plus bas niveau. Névoa, c'est le niveau standard. Mais le plus haut degré de prophétie, c'est le chazon. Chazon Ishayahu ben Amotz, asher chaza et Yehuda ve Yerushalayim. Al Yehuda. Chazon, c'est donc la madriga Eliona. Et si on regarde le verset, eh bien, on se rend compte que Zekenim, eux, ils auront la madriga de Chalom. Les adultes, ils auront la madriga de Navi, Nevoa. Mais les jeunes auront la madriga de Chazon. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu vas naître proche de ce moment où tout le monde reçoit la Nevoa, et plus tu seras connecté avec la profondeur de cette Nevoa. C'est-à-dire que plus le temps passe, et moins on aura de niveau de névoie. Mala asot. Mais d'un autre côté, nous avons de grands espoirs pour nos enfants et nos petits-enfants. Ok? Donc, Zikdechem chalomot yechalomun, bachuechem chesionot yiru. Vegam ala avadim, veala shvachot, bayamim ahemma, eshpoch et ruchi. Voilà. Gamba avadim va shvachot. C'est-à-dire que la prophétie, elle n'est même plus seulement au sein de Am Israël, mais elle sort également jusqu'aux frontières de ce qui est Am Israël, avadim va shvachot. On est en train de parler d'un dévoilement divin sans limite. De la même façon que dans le premier chapitre, on parlait d'une destruction sans limite avec les sauterelles, Là, on parle d'un dévoilement divin sans limite. Venatatim moftim bashamaim ou baaret dam vaesh vetimrot ashan. Eh ben alors, j'étais très bien, j'étais dans le pays des bisounours. Il y a deux secondes, Yoel, il me disait que tout ira bien, qu'il y aura la prophétie pour tout le monde. Et là, on me dit, natatim moftim bashamaim dam vaesh vetimrot ashan. Dam vaesh vetimrot ashan, ça me rappelle les dix plaies. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Nachon, Akadosh Baruch Hu va donner la révélation. Mais vous savez comme moi que à chaque grande révélation, eh bien, vient son lot de personnages qui la refusent, qui refusent la révélation. De la même façon qu'il y a eu le Mahamad Arsinaï, et que juste après, les goyim ont voulu nous attaquer. Bah, Mahamad Arsinaï, des dix plaies d'Égypte. Tout le monde a entendu parler des dix plaies d'Égypte. Boum, on sort d'Égypte, Amalek veut nous attaquer. Révélation Arsinaï, boum, on ne va pas nous laisser rentrer en Israël sans nous faire la guerre. Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile, et qu'il n'y a donc plus la possibilité de se poser la question, est-ce que Israël est le vecteur du dévoilement divin ou pas, eh bien les goyim ne l'acceptent pas et essayent de faire en sorte qu'il y ait Dam, Vaesh, Vetimrot Hashem. Hashemesh yapech lachoshech vayareach ledam lifnei bo yom Hashem agadol veanora. Est-ce qu'on parle simplement ici d'une éclipse solaire, c'est pas une éclipse lunaire? Vous savez bien que quand il y a une éclipse solaire, eh bien, à Shemesh, il y a Per le Chosher. Et quand il y a une éclipse de lune, alors la lune devient rouge. Derrière les dames. Mais des éléments comme ça, ça existe tout le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à Yom Agadol Vanora. À chaque fois que tu vois une lune rouge, tu vois tout de suite sur Internet des rabbins, ou pas rabbins, qui te font des cours en veux-tu en voilà sur attends, mais là il va y avoir une lune rouge, ça veut dire que le Mashiach dans 12 minutes 37 secondes il est là. Moi je me rappelle très bien de cette scène fantastique dans Tintin au pays du soleil, lorsque Tintin et le capitaine Haddock ont été capturés par les fils du soleil et qu'ils ont préparé un bûcher pour les brûler, parce qu'ils ont profané le temple solaire. Mais ils ont le droit de décider du jour de leur mort. Sympa. Et à ce moment-là, dans la cellule où ils sont retenus, le capitaine Haddock sort de sa poche un morceau de journal qu'il avait pris avec lui le matin à l'hôtel où ils étaient le matin, et il le jette dans un coin de la cellule. Tintin le ramasse, et voit que le journal prévoit une éclipse solaire pour demain midi. Et donc Tintin dira au chef du soleil, on veut mourir demain à midi. Et donc ils se font amener sur le bûcher, et à midi moins deux, midi moins une, Tintin regarde le soleil et dit, soleil, montre à tout le monde que tu ne veux pas qu'on nous tue. Si j'ai raison, voile-toi et montre au monde que tu n'es pas intéressé. Et boum, il est midi, c'est l'heure de l'éclipse. Yallah, il y a l'éclipse. Tous les adeptes du soleil se prosternent, disent, waouh, la folie, la folie. Bon. À part vous montrer mes connaissances en Tintin, à quoi ça sert? Ben, ça sert à dire que des éclipses solaires et lunaires, il y en a eu tout le temps. Oui, mais rappelez-vous, il y en a eu tout le temps aussi des arcs-en-ciel. Puisque nous savons bien que l'arc-en-ciel, c'est tout simplement un jeu d'humidité qu'il y a dans l'air et qui fait que bien, la lumière est réfractée par les différentes gouttes d'humidité et ça va créer l'arc-en-ciel. Donc quel rapport avec le Brit, l'alliance que Dieu donne avec Noah? Nous dit le Ramban, Nachon, l'arc-en-ciel c'est un truc naturel. Mais avant le Ramban, ce n'était que, avant le Noah, c'était qu'un truc naturel. Après le Ramban, après Noah, pourquoi je dis le Ramban tout le temps? Après le Noah, ça devient un signe d'alliance, bien que ce soit aussi un phénomène naturel. Et donc, il va falloir savoir quand il s'agit d'un phénomène naturel et quand il s'agit d'un signe d'alliance. Il en va de même ici. Des éclipses, il y en a eu tout le temps. Et elles ne sont pas du tout tout le temps synonymes de quoi que ce soit. Mais il faut être capable de regarder quand elles sont synonymes. Vous allez me dire, mais comment on va faire ça? Mais t'inquiète pas, il y aura des prophètes. Et ils sont là pour ça maintenant. Puisqu'au premier verset, on t'a dit qu'il y aura des prophètes qui vont revenir. Il faut bien qu'ils soient là pour interpréter les choses. Mais c'est quoi Hashemesh et Afer le Rocher? Hashemesh, ce sont les nations. Les nations qui donnent le ton au monde, eh bien, il y a Afrou le Rocher. Ce n'est plus eux qui donnent le ton au monde. Vayareach, c'est une autre partie du monde. Et oui, vous avez une partie du monde qui est une partie solaire, c'est le monde occidental qui a un calendrier solaire, et une partie du monde qui est lunaire, un calendrier lunaire, comme le monde de l'islam. Hashem eshe afer le chosher, toutes les certitudes de l'Occident vont tomber dans l'obscurité, c'est ce qu'on est en train de voir depuis les philosophes déconstructionnistes du XXe siècle, Deleuze, Derrida, Foucault. Et il va y avoir aussi le monde de la Lune, le monde musulman, le monde oriental, Shoya Afer les dames. En d'autres termes, une guerre interne qui risquerait de les faire énormément souffrir. Est-ce qu'on peut voir poindre le bout du conflit entre chiites et sunnites ici? Peut-être. Et tout ça, ça se passe l'ifne bo yom Hashem agadol ve'anora. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה כאשר אמר השם ובשרידים אשר השם קורא. Qu'est-ce qui se passe ici? והיה כל אשר יקרא בשם השם. Quoi, c'est un truc magique? Tu dis une formule magique et t'es sauvé de cette période là? Pas du tout. אם אתה קורא בשם השם et que tu vas à Har Tzion, en fait, tu admets que celui qui peut t'amener, eh bien, la sécurité, la bonne réponse, eh bien, c'est Am Israël qui est Be'ar Hashem, Be'ar Tzion. En d'autres termes, il ne s'agit pas ici de parler de mystique. Il s'agit de dire que si le monde occidental s'effondre au niveau de ses idées, que le monde musulman également, où est-ce que tu vas aller chercher une vérité? Be'ar Tzion. Lorsque le Melech Khazar, dans le Kuzari, a été déçu de chrétien, déçu du musulman et déçu du philosophe, bien qu'au départ, il ne voulait pas aller voir le juif parce qu'ils étaient miskénim, à la fin, il décide, je n'ai pas le choix, je vais quand même aller le voir. Et c'est ce qui va donner tout le livre du Kuzari. Ve'aya kol asher yikra b'shem Hashem yipanimalet. Ki be'ar tzion ubirushalayim tiye peleta. Ka asher amar Hashem ובסרידים אשר השם קורא. Donc a priori, le quatrième chapitre devrait simplement nous dire, c'est bon, tout ira bien, tout le monde va finalement reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ve'yalla. Eh oui, mais comme tu sais, il est beaucoup plus facile d'accepter une nouvelle idée plutôt que de remettre en question les anciennes. Kine bayamim ahem uvaetai asher ashiv et shvut Yehuda v'Yerushalayim. Lorsque je vais ramener le peuple d'Israël en Judée-Samarie, à Jérusalem, vekibatzti et kol agoyim v'oradetim el emek Yehoshafat v'nishpateti imam sham al ami v'nachalati Israël. Asher pizru bagoyim ve'et arzi chileku. Viendra un temps où je demanderai des comptes aux goyim. Ki batzti et kol agoyim. Et je les ferai descendre dans Emek Yehoshafat. Alors Emek Yehoshafat, on connaît. C'est en Judée. Mais c'est au-delà de ça. C'est je les fais descendre là où Dieu juge. Yehoshafat. Là où Dieu juge. Et ils seront jugés pourquoi, les goyim? Al-ami ve-nachalati Israël, asher pizru bagoyim. Vous savez que ça a commencé ? Ah, il y a longtemps, hein ? Ah ouais, non, il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, si je me trompe pas, c'est quoi ? Je veux pas dire une grosse bêtise. Donc, pendant que je vous parle, je vais faire une recherche. Attends. Hop là. Pendant que je vous parle, je vais faire une recherche. Parce que il est possible que je dise des bêtises. Je veux juste pas me tromper dans la date. Je crois que c'est 74. Mais je veux être sûr. Avant de vous dire des bêtises. Iné. Voilà. Alors, attention. Hop. Hop. Yofi. Alors, je vérifie pour pas dire de... Ah non, 79. Voilà, je parlais... Alors, vous saviez pas de quoi je parlais... Pardon ? Attendez voir. Attendez, j'arrête de partager deux secondes. Non, ça je sais bien. La destruction de Jérusalem, ça, j'avais pas besoin de vérifier. Vous êtes gentil.
Non, c'est juste appris.
Toda Rabba, Nechmad Meol. La destruction de Jérusalem, ça, c'est bon, j'en fais mon affaire. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'était pas la destruction de Jérusalem, qui est en l'an 70, et la chute de Masada en 73-74, ça, je vous remercie, tout va bien. Mais ce qui m'intéressait, voilà, je vous remets le partage. Pardon ? Quelqu'un voulait dire un truc ? Non. Ce qui m'intéressait, c'était la destruction de Pompéi en 79. Ah, j'étais plus sûr de l'année, je pensais 74, mais non, 79. En l'an 79, donc quelques années seulement après la destruction de Jérusalem, il y a eu la destruction de Pompéi, l'éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi. Un des historiens romains, Chéron, écrit « Ça, c'est la vengeance du Dieu d'Israël suite à ce qu'on a fait en détruisant Jérusalem et en emmenant son peuple en exil. » Je te parle de ça en l'an 79. Donc, de dire qu'Akadosh Baruch Hu va juger les Goïm pour ce qu'ils nous ont fait et ce qu'ils nous ont emmenés en exil et qu'ils ont donné la terre d'Israël à d'autres, eh bien, on voit que ça a déjà commencé. Vel ami yadou goral veitenu hayeled bazona vehayalda machu bayayin veishtu. Voilà ce qu'ils ont fait au peuple juif. וגם מה אתם לי צור וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עליי ואם גולמלים אתם עליי קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם. Et vous tous ces peuples de צור וצידון, c'est qui צור וצידון? Les כנענים. גלילות פלשת. Vous savez pourquoi la région s'est appelée la Palestine? Parce que l'empereur romain Adrien, voulant changer le nom de la Judée pour embêter les Juifs, il l'a appelé Eretz Pelishtim, au nom des Plishtim, ennemis du peuple juif. Le problème, c'est que le son « che » en grec n'existe pas. Donc Plishtim est devenu Palestine. Et donc, on vient te dire ici « Gelilot Pelashet ». Je vais vous faire rendre des comptes de tout ce que vous avez fait au peuple juif. Asher kaspi uzehavi lekartem umachamadai atovim evetem leechel lechem. Vous avez pillé tout ce qui était important dans mon royaume. On parle, évidemment, ça résonne dans notre tête, l'arc de triomphe de Titus, avec la menorah qui a été emmenée comme trophée de guerre. Mais on pourrait en parler des heures et des heures de ce que les goïms nous ont volé au fur et à mesure des époques. Vous vous rappelez de l'argumentaire absolument chutzpan des Égyptiens qui viennent voir Alexandre le Grand, tel qu'il est marqué dans Perek Relek, dans la Gemara dans Sanhedrin, qui disent « Vous nous devez de l'argent ». vous les Juifs, puisque vous avez quitté l'Égypte en prenant Kesef et Zahav. Et Gevia ben Pessissa qui répond en disant, mais vous êtes Routspanim ou quoi? Si vous voulez qu'on parle d'argent, on va parler d'argent. Combien ça fait 430 ans d'esclavage fois 600 000 personnes? Hein? Vous voulez qu'on commence à compter les salaires? Asher Kaspi ou Zahavi le Kartem. Ou Mahamadai Atovim et Vetem le Erlechem. Ou Bene Yehuda. ובני יהודה ובני ירושלים מחרתם לבני היוונים למען ארחיקם מעל גבולם. L'exil, בקיצור. Les juifs qui ont été vendus dans les marchés aux esclaves. C'est toute l'histoire juive qui est en train d'y passer. C'est-à-dire que Yoël, ici, nous redécrit, au travers du Mishpat des Goïm, toute l'histoire d'Israël. Inneni meiram minam makom asher mechartem otam shamma vashivoti gemulchem beroshrem. Non seulement je vais les sortir de tous les endroits où vous les avez envoyés, et il n'y a pas de communauté de laquelle il n'y a pas eu de alia. Partout dans le monde, là où il y a des juifs, il y a des juifs qui ont fait l'alia. Il dit à Kadosh Baruch Hu, et je vais vous faire comprendre ce que vous leur avez fait. Est-ce que, vous savez, vous êtes, j'imagine, comme moi, on est en Israël, mais on a toujours un regard pour le reste de nos familles qui sont encore en France. Et donc forcément, on est plus au courant de ce qui se passe en France que de ce qui se passe en Italie. Et on sait très bien quels sont les débats actuels en France. Éric Zemmour, pas Éric Zemmour. Grand remplacement, pas grand remplacement. Et si justement... cette histoire de remplacement serait la réalisation de la névoie de Yoël, qui dit je vais vous faire ressentir ce que vous avez fait ressentir au Ham Israël en les emmenant en exil de chez eux. Il y a eu deux formes d'exil. Il y a eu l'exil des Grecs qui sont venus en Israël changer la culture d'Israël en culture grecque, comme s'il y avait des gens qui pouvaient venir chez les autochtones et changer de l'intérieur une culture, ou alors ceux qui nous ont emmenés en exil et qui nous ont forcés à prendre leur culture. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel qui pourrait arriver au Goïm serait purement fortuit, involontaire, évidemment. Ummecharti et benechem ve'et benotechem beyad bene Yehuda ummecharum lishvaim el goy rachok ki Hashem diber. Là, le prophète nous dit qu'on va faire de la traite d'esclaves, qu'on va acheter des esclaves non juifs et qu'on va les revendre loin. Eh bien, je vous rassure, on ne va pas réaliser cette prophétie. Pourquoi on ne va pas réaliser cette prophétie? Parce que Baruch Hashem, toutes les prophéties négatives ne sont pas obligées de se réaliser. Et l'esclavage étant négatif, Baruch Hashem, Am Israël et le monde entier s'est éveillé à la conscience que l'esclavage, c'est pas bien. Et donc, je vois pas pourquoi on devrait réaliser cette prophétie-là. Baruch Hashem, on n'a plus d'esclaves. Par contre, attention. Kir'uzot bagoyim. Kadeshu milchama. Ha'iru ha'giborim. Yigshu ya'alu kol anshei ha'milchama. À qui le prophète Yoël parle? Il parle au Ham Israël. Soyez prêts à rendre coup pour coup. Vous ne devez pas que compter sur moi. Vous devez être prêts également. Et là, on te dit quoi? Kutu itechem lecharavot. ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. Soyez prêts à faire la guerre. Ça fait tellement contraste avec les paroles qu'on a l'habitude d'entendre de Yeshayahu Hanavi, qui dit לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה. Il y a une étape avant le moment où il y a la paix, c'est le moment où Am Israël est capable de faire la guerre. comme disait l'autre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire qu'il faut faire la guerre. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de la faire. Osu, osu vavou kol agoyim misaviv, venikbatsu shama, hanechat Hashem giborecha. Les égoïmes vont se réunir pour nous attaquer. Alors vous avez compris qu'on parle ici de Milchemet Gog Umagog. Yaoreru veyaalu agoyim el emek Yehoshafat, ki sham eshev lishpot et kol agoyim misaviv. Shirchu magal, ki bashal katsir, bohu redu, ki malagat, heshiku ayekavim, ki rabba ra'atam. En d'autres termes, nous dit Akadosh Baruch Hu, je vais les juger sur les trois dimensions. Sur Magal Bakatsir, sur Gata Anavim, sur donc les Yekavim, sur et la Daat et le Regesh. Katsir, c'est Katsir de la, du blé. Le blé, c'est ce qui amène la Daat. Alors que les raisins, le vin, c'est ce qui nous permet de l'itragesh. C'est à ces deux niveaux-là que Akadosh Baruch Hu va juger l'égoïme. Hop là. Ammonim, ammonim, be'emek echarutz, ki karov yom Hashem be'emek echarutz. Shemesh ve'yareach, kadaru, ve'kochavim, asfu naga'am. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À ce moment-là où Akadosh Baruch Hu s'occupe des goyim, eh bien on te dit Shemesh ve'yareach kadaru, et le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles voilent leur éclat. Mais attendez, vous avez compris qu'on parle de Meshalim ici. C'est qui Shemesh? On a dit c'est le monde occidental. C'est qui Yareach? C'est le monde oriental de l'islam. Et c'est qui les étoiles? Miem kechokhve hashamaim. C'est nous. C'est-à-dire que la totsa'a, la conséquence directe de ce jugement divin pour les civilisations du monde, c'est que maintenant c'est Israël qui mène la lumière, qui amène cette lumière, et plus l'égoïme. Quand on y réfléchit, la lumière d'Israël, ce sont des étoiles. Mais les étoiles, ce sont des soleils qui d'ailleurs sont beaucoup plus grands que notre soleil à nous. Il semblerait que pour l'instant, on ne les voit pas très bien parce qu'ils sont tout petits. Oui, parce que Bagalout, tu les vois petits. Bagalout, tu les vois petits. Bagéoula, on devient des galaxies. On éclaire la lumière d'Israël dans le monde. Vashem mitzion yishag zicha o mirushalayim iten kolo v'ra'asho shamayim v'aretz v'ashem machase le'amo u'ma'oz livnei Israël. C'est de Jérusalem qu'on va entendre l'appel divin. V'idatem ki ani Hashem Elohechem shochen betzion har kodshi והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד. Où est-ce que les zarim ne peuvent plus venir? Quand on va reconstruire le Beth Amikdash. Alors les zarim ne peuvent pas venir à un certain endroit, ils peuvent arriver jusqu'à un certain endroit, et après ils ne peuvent plus avancer. והיה ביום ההוא, יתפו הערים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. Toujours cette abondance, mais on termine en disant que מעיין מבית השם יצא. Voilà. בית השם זה בית המקדש. יצא מעיין מבית המקדש? Extraordinaire. Fantastique. Oui, fantastique. Mais elle va aller où cette Mayan? Elle va aller abreuver Nachal Hashitim. Efoze Nahal Hashitim. Ben, Nahal Hashitim, c'est la mer morte. C'est l'endroit de, oui, ben, voilà, de Emek Yericho, la mer morte. Vayechanu Israël Bashitim, Vayishvu Israël Bashitim, c'est en face de Yericho. Maintenant, dites-moi, il y a juste un problème. Moi, je veux bien qu'il y ait une source qui sort du Har Amoria et qui arrive jusqu'à la mer morte. Har Amoria, c'est à peu près à 700, 800 mètres d'altitude. Yericho, c'est à moins 400 mètres. Si la Marianne, elle sort de Beit Hashem, elle peut arriver jusqu'à Yericho. Ah non! Il y a un obstacle au milieu. Enfin, pas vraiment au milieu. Il y a un obstacle juste à côté de Beit Hashem. Vous savez comment il s'appelle? Har HaZeitim. Har HaZeitim. Har HaZeitim, c'est un petit obstacle, hein, bien évidemment. C'est le seul obstacle qui nous empêcherait d'aller à la Ma'ayan de Beit Hashem. Alors, je suis sorti, je sais qu'il nous reste deux versets, mais je suis sorti exprès. Pourquoi? Iné. Hop là. Est-ce que je vais retrouver ça tout de suite ou je ne vais pas retrouver ça? Iné. Regardez ce que nous dit Zecharia Navi. Alors, on va y arriver, hein. Je spoil. C'est le dernier, c'est, enfin, pas le dernier. C'est l'avant-dernier des 12 petits prophètes. Nous dit Malachi, dans le chapitre, donc, 14, verset 3. Ve'yatsa Hashem ve'nilcham bagoyim ahem kayom ilachamo beyom chav. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם. אלא הוא נודי, ונפקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נקבע. נודי לפרופט זכריה, כביינרה אתן, הוא הר הזיתים, ותו סמפלמון, סוברירו דו. וכם מסוברירו דו. Eh bien, pas de problème, il laissera donc passer la Ma'ayan qui sort de Beit Hashem pour arroser Nahal Hashitim. Alors, si vous vous posez la question dans votre prochain tioul sur le mont des Oliviers, mais c'est où? C'est où que ça va trembler et que ça va s'ouvrir? Parce que ce serait quand même ballot de marcher juste à l'endroit où ça s'ouvre. Alors justement, pour pallier à ce problème, nos très chers amis chrétiens nous ont fait une grande tova. Et on construit du nord au sud, du haut en bas de la montagne, trois églises sur le même tracé. L'église de Gat Shemanim, l'église de Dominus Levi et l'église de Misgat Nesiat HaAliyah. Donc c'est très bien. Akadosh Baruch Hu, il a le tracé et donc on sait très bien où ça va pouvoir s'ouvrir. Donc la prochaine fois que vous êtes en Tioul sur le mont des Oliviers, si vous voyez que ça bougeote, bon bah écartez-vous de la ligne médiane, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Yetzem Ma'ayan mi Beit Hashem Lehashkot et Nahal Hashitim. Nahal Hashitim, ça a été le théâtre de Bnot Moav, de Baal Peor, des moments les plus pervertis, dépravés du Ham Israël. Eh bien, donc viendra un temps où on arrivera à nettoyer même ça, à abreuver même ça de Ma'im Shel Torah. Mitzrayim lishmama tiye, ve'edom le midbar shemama tiye. Vous êtes déjà baladé en Égypte? C'est pas Gan Eden. Vous êtes déjà baladé à Petra? Bon, c'est joli Petra, mais bon, le sud de la Jordanie, c'est pas l'endroit le plus florissant du monde. Mechamas ben Yehuda, asher shafru dam naki be'artzam. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien qui pousse là-bas? À cause de ce que vous avez fait au Bnei Israël. Viuda leolam teshev, Verushalaim le dor vador. Yehuda va retrouver sa place pour l'éternité. Et Yerushalaim le dor vador. Mazé le dor vador. Est-ce que le dor vador, c'est un personnage de science-fiction avec un casque noir? Non, je ne crois pas. Non, Dark Vador, ce n'est pas de toi qu'on parle. On parle de Dor Oler Vedor Ba. Que les générations dans le peuple d'Israël ont été aujourd'hui les héritiers du passé et aujourd'hui construisent les générations de l'avenir. Veniketi damam lo niketi. Vehashem shochen betzion. Je n'ai absolument pas oublié le sang qui a été versé. Et je ramènerai ma présence et je résiderai à Tzion avec le peuple d'Israël. Le prophète Yoël a commencé par quelque chose qui était compliqué de nous rappeler quelles étaient nos erreurs, mais il terminera non seulement en disant que le lien avec nous n'a jamais été effacé, mais qu'en plus, Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié de faire la justice envers tous ceux qui nous ont fait tellement de mal. Car oui, il faut se poser une seule question. Comment est-ce possible que le peuple le plus sage, le plus tzaddique, le plus extraordinaire de l'histoire ait été malmené autant par les goyim? On pourrait donner 7 réponses, 8 réponses, 29 réponses. Mais quelle que soit la réponse, ils devront rendre des comptes. Rendre des comptes pour avoir non seulement fait du mal au peuple juif, mais avoir ainsi donc entravé le dévoilement divin qui aurait très certainement pu arriver bien avant. Yoël, c'est celui qui voit dans l'idéal de Acharit Hayamim un monde où la connexion avec Dieu est totale et parfaite, une prophétie chez tout le monde. Et même ceux qui ont du mal à l'accepter, eh bien, finiront par être soumis à la lumière du dévoilement divin. C'est une fin extrêmement optimiste pour nous, et j'allais dire optimiste pour eux aussi. Parce que même si ça passe par des problèmes de leur point de vue d'acceptation, au final, le but c'est que Ma'ayan yetzé mibet Hashem et puisse arroser, puisse abreuver le monde entier. Chazak ou Baruch et Toda Rabba, et voilà le moment des questions.
Merci beaucoup Ethan, Toda Rabba, et donc la semaine prochaine on pourra commencer un nouveau livre. Voilà, question mes amis, vous pouvez ouvrir le micro. Robert.
Non, moi j'avais toujours pensé, parce que j'avais vu une émission il y a à peu près un mois ou deux à la télé, pour le les choses de Pompéi, la destruction de Pompéi, ils avaient déjà fait le rapprochement, parce qu'ils avaient dit que c'était avant les années 80, justement, où il y a eu ce destruction de Jésus. Et là, il m'a confirmé, c'est pour ça que j'ai vite entendu, j'ai pensé aux 70.
Et ben voilà.
Parce que je dis...
Il a fait mal.
J'avais pensé à ça, c'est un peu... Vous me confirmez un petit
peu dimanche, pour ne pas attendre jusqu'à mardi pour réécouter le Rav Fillon. Voilà, Mira, c'est à toi.
Oui, voilà, j'aurais une question.
Oui.
Yehoshaphat. Est-ce que vous avez une explication?
Alors, en l'occurrence, oui. En l'occurrence, oui. Mais là, ça nous fait rentrer déjà dans plusieurs dimensions au niveau de la Kabbalah. C'est-à-dire que le Hey, le dernier Hey du tétragramme, représente, d'après la Kabbalah, eh bien, la chef